Vous écoutez On lit pour vous.
Forte chaleur et grossesse. Ce que révèle une étude sur 36 millions de naissances inquiète. Un texte de Dominique Royer, Anna M. Vicedo Cabrera, Aurelio Tobias, Carmen Iniguez et Coral Salvador, paru le 16 juin 2026 dans Futura Science. Pour des millions de femmes enceintes, l'été n'est pas seulement une épreuve, c'est aussi un danger méconnu. Une étude inédite, portant sur 36,6 millions de naissances dans 13 pays, révèle que les vagues de chaleur extrêmes augmentent le risque d'accouchement prématuré, tout en creusant les inégalités sociales. Quels sont les mécanismes physiologiques en jeu qui fragilisent l'organisme des mères et des fœtus? Comment protéger les plus vulnérables de ce risque environnemental sous-estimé? Une nouvelle étude portant sur 36,6 millions de naissances révèle que les chaleurs extrêmes augmentent le risque de naissance prématurée. Les futures mères sont d'autant plus à risque qu'elles sont en situation de vulnérabilité socio-économique. Imaginez-vous vivre une journée caniculaire en plein été. Maintenant, imaginez ce que cela peut signifier pour une femme enceinte de 8 mois. Inconfortable, c'est le moins que l'on puisse dire. Mais la chaleur n'est pas qu'un simple désagrément. Elle peut aussi, dans de nombreux cas, déclencher un accouchement prématuré. Or, le risque de mortalité des bébés nés avant terme, c'est-à-dire avant 37 semaines de gestation, est significativement accru. Ces enfants sont par ailleurs exposés à des complications en matière de santé dont les conséquences peuvent les affecter toute leur vie durant. Depuis plusieurs décennies, la recherche documente le lien entre exposition à la chaleur et risque de naissance prématurée. Toutefois, jusqu'à présent, la plupart des études se limitaient à l'étude des naissances survenues dans une seule ville ou un seul pays. En outre, les méthodologies mises en œuvre, variables d'une recherche à l'autre, se prêtaient difficilement à la comparaison. 13 pays, 36 millions de naissances. Au cours de nos travaux, nous avons analysé 36,6 millions de naissances survenues durant la période estivale, entre 1979 et 2019, dans 250 villes et agglomérations de 13 pays. Australie, Brésil, Canada, Chili, Équateur, Estonie, Israël, Italie, Japon, Paraguay, Espagne, Suisse et États-Unis. Il s'agit de l'analyse multicentrique, autrement dit portant sur les données de plusieurs sites différents, selon un même protocole, note du traducteur, la plus vaste jamais réalisée sur ce sujet. Pour estimer la relation entre la température et le risque de naissance prématurée, nous avons eu recours à des modèles statistiques de pointe. Ceux-ci nous ont permis d'identifier les effets différés et non linéaires d'une exposition à la chaleur durant les jours qui précèdent l'accouchement. Les résultats sont sans ambiguïté. Le risque de naissance prématurée augmente de manière linéaire avec la hausse des températures. Lors des journées de chaleur modérée, le dit risque croît de 2,8%. Lors des épisodes de chaleur extrême, cette augmentation atteint 3,8%. Près de 855 naissances prématurées supplémentaires par million. Traduire ces risques en chiffres permet de mieux apprécier l'ampleur du phénomène. Selon nos calculs, 1,41% de l'ensemble des naissances prématurées survenues durant la période estivale est attribuable à la chaleur. En valeur absolue, cela représente 855 naissances prématurées supplémentaires par million de naissances. Cet ordre de grandeur est comparable à celui d'autres facteurs bien établis. Il dépasse largement, par exemple, la contribution du tabagisme maternel dans les pays à revenus faibles et intermédiaires, et se situe au même niveau que celle du paludisme. En d'autres termes, la chaleur constitue d'ores et déjà un facteur de risque environnemental majeur pour la santé reproductive. À ce sujet, les disparités entre pays sont également éclairantes. Les taux les plus élevés sont enregistrés par le Paraguay avec 1347 naissances prématurées par million, tandis que le taux le plus faible est affiché par la Suisse, 628 naissances prématurées par million. L'Espagne se situe dans la tranche intermédiaire haute avec 1080 par million. Cette variabilité suggère que le climat, le niveau de développement socio-économique et la capacité d'adaptation de chaque pays influent de manière significative sur la vulnérabilité des femmes enceintes. Toutes les grossesses ne présentent pas le même risque. L'une des conclusions les plus marquantes de notre étude suggère que la chaleur n'affecte pas toutes les femmes de la même manière. Les jeunes mères célibataires ayant un faible niveau d'éducation et se trouvant en situation de vulnérabilité socio-économique pourraient être exposées à un risque accru de naissance prématurée induite par la chaleur. Les fœtus de sexe féminin semblent également plus sensibles que les fœtus de sexe masculin. Cependant, la plupart de ces analyses de sous-groupes n'ont pas atteint le seuil de significativité statistique, et des recherches complémentaires seront nécessaires pour les confirmer. Des mécanismes spécifiques sous-tendent ces disparités. Les personnes en situation de précarité économique sont plus susceptibles de vivre dans des zones particulièrement chaudes en raison de l'effet d'îlots de chaleur urbains. Elles sont aussi plus souvent amenées à travailler en extérieur et disposent plus rarement d'une climatisation ou d'autres moyens de protection contre la chaleur. Inégalités sociales et inégalités climatiques se superposent, et ce sont les femmes enceintes les plus vulnérables qui en paient le prix le plus lourd. La chaleur influe aussi sur les accouchements à terme. Le résultat le plus inattendu de notre recherche est sans doute celui-ci. L'effet de la chaleur ne se limite pas aux naissances prématurées. Nous avons également observé une augmentation significative du risque d'accouchement dans le cadre de grossesses considérées comme cliniquement normales, autrement dit survenant entre la 37e et la 42e semaine. La chaleur extrême augmente ainsi le risque d'accouchement entre la 37e et la 38e semaine de 3,66%, tandis qu'à 39 semaines et au-delà, ce risque est accru de 2,97%. Cela signifie que la chaleur peut agir comme un facteur déclenchant du travail pour des fœtus qui, dans d'autres circonstances, auraient poursuivi leur développement normalement. La fenêtre gestationnelle la plus sensible s'étend de la 31e à la 40e semaine, ce qui signifie qu'elle couvre à la fois des naissances prématurées tardives et des naissances à terme précoces. Les mécanismes en jeu. Les mécanismes biologiques impliqués sont nombreux. La chaleur peut élever la température corporelle et déclencher des contractions utérines. La déshydratation qu'elle provoque perturbe par ailleurs l'équilibre électrolytique et réduit le débit sanguin placentaire. La chaleur favorise aussi les processus inflammatoires et le stress oxydatif, lesquels sont susceptibles de compromettre le développement fœtal et d'accélérer la maturation du col de l'utérus. Les femmes enceintes sont particulièrement vulnérables, car leur organisme produit davantage de chaleur en raison de la croissance fœtale, tout en ayant une capacité réduite à la dissiper, du fait de la prise de poids. En première ligne du réchauffement climatique. Ces résultats revêtent une dimension particulièrement préoccupante dans le contexte du changement climatique. En effet, au cours des prochaines décennies, les vagues de chaleur deviendront plus fréquentes, plus intenses et plus longues. En cas d'inaction, le fardeau des naissances prématurées attribuables aux fortes températures ne fera que s'alourdir, érodant des décennies de progrès en matière de santé néonatale et infantile. Une réponse à la hauteur de l'enjeu suppose d'intervenir sur plusieurs fronts. Sur le plan clinique, les systèmes de santé doivent intégrer la chaleur en tant que facteur de risque au cours du suivi de la grossesse, en particulier pour les femmes en situation de vulnérabilité sociale. Sur le plan de l'aménagement urbain, il est urgent de développer des stratégies d'adaptation. Espaces verts, îlots de fraîcheur, systèmes d'alerte précoce pour protéger les femmes enceintes lors des épisodes de chaleur extrême. Enfin, sur le plan politique, ces résultats doivent se traduire par des objectifs ambitieux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. La chaleur extrême n'est plus une simple question de confort. C'est un enjeu de santé publique, d'équité sociale et de justice climatique. Et les femmes enceintes sont en première ligne. C'était « Forte chaleur et grossesse », ce que révèle une étude sur 36 millions de naissances inquiètes. Un texte de Dominique Royer, Anna M. Vicedo Cabrera, Aurelio Tobias, Carmen Iniguez et Coral Salvador, paru le 16 juin 2026 dans Futura Science.
Nouvelles et nouveautés en santé et en bien-être. Un texte de Catherine Handfield, paru le 14 juin 2026 dans La Presse. Une clinique d'avortement en télémédecine. Les Québécoises ont accès depuis quelques mois à une clinique d'avortement par télémédecine. La procédure, médicamenteuse, est entièrement couverte par la Régie de l'assurance maladie du Québec. La clinique Autonomia a été fondée par la docteure Sandrine Dionne, gynécologue obstétricienne à l'hôpital Honoré-Mercier à Saint-Hyacinthe. Les soins d'avortement par télémédecine font partie du plan d'action gouvernemental sur l'accès à l'avortement 2024-2027. C'est dans ce contexte que la docteure Dionne a élaboré un protocole d'avortement par télémédecine, d'abord destiné à la région où elle travaille, en Montérégie. Comme le financement ministériel n'a pas été reconduit, Sandrine Dionne a décidé de prendre le relais en ouvrant elle-même Autonomia, offerte à l'échelle provinciale depuis septembre 2025. C'est la première clinique au Québec offrant ce service 100 % en télémédecine, précise la gynécologue qui souligne que l'avortement par télémédecine demeure encore méconnu, tant de la population que du personnel médical. C'est au Royaume-Uni que les grandes études sur ces modèles ont été réalisées. En 2025, une revue, Cochrane, a conclu que, selon la littérature scientifique existante, l'avortement par télémédecine offre des résultats similaires, tant en termes de sécurité, d'efficacité que d'acceptabilité. Il existe deux types d'avortement, procédural, avec des instruments médicaux, et médicamenteux. L'avortement par télémédecine est évidemment médicamenteux. Si la patiente répond aux critères, le médecin envoie une ordonnance, mifépristone et misoprostol, à la pharmacie. Les suivis se font au besoin, indique la docteure Dionne. Si tout va bien, les patientes font un test de grossesse environ 4 semaines après l'avortement, et si c'est négatif, voilà, c'est fini, résume-t-elle. Quels sont les critères? Connaître avec certitude la date de ses dernières menstruations. Les médicaments peuvent être pris jusqu'à 10 semaines de grossesse. Ne pas avoir de facteurs de risque de grossesse ectopique ou de contre-indications médicales. Quand la patiente ne répond pas aux critères à 100 % et que j'ai besoin d'une échographie, je réussis souvent à en avoir une dans un hôpital de la ville où elle habite, indique la docteure Dionne. En 2024, près du quart des avortements ont été réalisés par médicaments au Québec, selon les données du ministère de la Santé et des Services sociaux. Des produits menstruels au prix coûtant. Toujours en matière de santé des femmes, plus de 57 pharmacies, principalement de l'enseigne Family Prix, offrent les produits menstruels au prix coûtant, et ce jusqu'au 31 décembre 2026. Le mouvement a été lancé par l'équipe de Family Prix Extra de Shawinigan Sud, qui espère ainsi contribuer à réduire le fardeau financier lié aux menstruations. Cette semaine, des employés du Family Prix Jean-Maurice Webel à Montréal ont déposé à l'Assemblée nationale une pétition pour demander au gouvernement de mettre en place des mesures concrètes pour améliorer l'accès aux protections menstruelles au Québec. La pétition demande la gratuité pour les personnes de moins de 26 ans, les personnes à faible revenu et celles vivant en situation de vulnérabilité économique. Consommation, un guide pour les parents. La maison Jean Lapointe lance un outil précieux pour les parents, un guide pratique pour mieux accompagner les adolescents face à la consommation d'alcool et d'autres substances. C'est une réalité démontrée dans les études. Lorsque les parents abordent la consommation de façon préventive et ouverte avec leurs enfants, ceux-ci ont tendance à moins consommer plus tard. Cette discussion devrait idéalement commencer avant même les premières expériences, puisque la recherche nous dit aussi ceci. Plus les jeunes attendent avant de consommer, moins ils sont à risque d'abuser pendant l'adolescence et à l'âge adulte. Le guide de 20 pages explique les facteurs de risque, les signes à surveiller et les techniques de communication éprouvées pour maintenir le lien de confiance avec son enfant. La clé? Garder le dialogue ouvert, rester cohérent et structuré, et fournir de l'information claire et fiable sur les substances. Accéder à la fonctionnalité appareil auditif des AirPods. À la suite d'un reportage sur les appareils auditifs en vente libre, un lecteur de la presse, Michael Peters, nous a signalé ceci. Il est capable d'utiliser les fonctions audiométrie et appareil auditif sur ses AirPods, alors que ces fonctionnalités ne sont pas encore disponibles au Canada en raison des restrictions réglementaires dans certaines provinces. La presse a pu confirmer cette information auprès d'autres utilisateurs d'iPhone. L'équipe d'Apple confirme que les fonctionnalités demeurent indisponibles au Canada. Si certaines personnes les voient apparaître dans les réglages AirPods de leur iPhone, c'est parce qu'elles ont séjourné, dans le passé, dans des régions où elles sont prises en charge, aux États-Unis ou au Royaume-Uni, par exemple, et qu'elles disposent d'un appareil et d'un logiciel compatible. AirPods Pro 2 ou 3, dotés du micro-logiciel le plus récent, avec un iPhone ou un iPad compatible, doté d'iOS 18, d'iPad OS 18 ou d'une version ultérieure. Apple confirme que les fonctionnalités demeurent accessibles une fois de retour au Canada, l'objectif étant de permettre à ceux qui remplissent les conditions, les Américains par exemple, de continuer à utiliser la fonctionnalité appareil auditif en voyage. Les utilisateurs doivent avoir au moins 18 ans. Le Québec, l'Ontario et la Colombie-Britannique mènent actuellement des analyses en vue de permettre l'accès aux appareils auditifs en vente libre, conçus pour les pertes auditives légères à modérées. Les AirPods sont considérés ainsi lorsqu'ils sont munis de la fonctionnalité « appareil auditif » homologué depuis 2024 par Santé Canada. C'était « Nouvelles et nouveautés en santé et en bien-être ». Un texte de Catherine Handfield paru le 14 juin 2026 dans La Presse.
Des travailleurs étrangers qui restent éveillés la nuit. Un texte de Benoît Valois-Nadeau, paru le 26 mai 2026 dans Le Devoir. Partout au Québec, employeurs et associations patronales clament leurs difficultés à pourvoir les postes des quarts de travail atypiques, comme ceux de nuit ou de fin de semaine. Pour beaucoup, la solution passe par l'embauche de travailleurs étrangers prêts à occuper ce genre de poste. Mais qu'est-ce qui garde ces travailleurs immigrants éveillés? Les choses roulent rondement chez Groupe Meloche, acteur important du secteur aérospatial québécois. Le fabricant de pièces aéronautiques fait tourner ses 4 usines 24 heures sur 24 et 5 jours sur 7, parfois même 7 jours sur 7 dans certains cas. Pour répondre à la demande, l'entreprise de quelques 600 employés a mis en place des quarts rotatifs oscillant entre jour, soir et nuit. De 80 à 90 % de ces postes sont pourvus par des travailleurs étrangers temporaires actuellement. Note Anne-Renée Meloche, vice-présidente aux ressources humaines et aux communications de l'entreprise manufacturière. La présence de travailleurs migrants pour occuper ces plages horaires est essentielle, dit Mme Meloche. Si on perdait d'emblée tous nos travailleurs étrangers, ce serait catastrophique, affirme-t-elle sans hésiter. Nos équipements d'usinage demandent au minimum 1 million $ d'investissement chacun. En matière de rentabilité et de délai de livraison, on ne peut pas se permettre de ne pas faire rouler ces machines sur une plage de temps la plus large possible. Sans quart de soir, de nuit ou de fin de semaine, ça ne devient plus rentable du tout. Il y a quelques années, l'entreprise avait mis en place des quarts semblables dans ses installations de Valleyfield. Malgré des primes pouvant aller de 5 à 7 $ l'heure, l'entreprise a perdu environ 75 % de ses travailleurs québécois occupant de tels horaires. Les Québécois ont d'autres possibilités. Dès qu'il y a une occasion pour un travail de jour ou de soir, ou des horaires plus stables, ils vont aller vers ça, souligne Anne-Renée Meloche. Selon elle, les travailleurs étrangers sont non seulement qualifiés pour occuper ces postes, mais également volontaires pour le faire. À l'étranger, les travailleurs occupent souvent des quarts rotatifs. Quand on double ça de la possibilité de venir au Canada, d'avoir de meilleures conditions pour eux et leur famille, les quarts de soir, de nuit, de week-end, ce n'est vraiment pas un problème pour eux. Un passage obligé. Le phénomène est documenté. Les immigrants sont surreprésentés dans le travail de nuit. Selon les dernières données de Statistique Canada, 2,3 % des immigrants reçus travaillent lorsque tout le monde dort, contre 1,5 % pour les personnes nées au Canada. Les travailleurs des Philippines, de la communauté noire et du sud-est asiatique sont particulièrement nombreux à vivre à l'envers du jour. C'est une constante dans le temps. Les travailleurs immigrants ont toujours occupé les quarts atypiques, confirme Mircea Vultur, professeur titulaire à l'Institut national de la recherche scientifique. La première chose dont un immigrant a besoin, c'est d'un emploi pour subvenir à ses besoins et se sentir intégré dans la société canadienne. Et les emplois les plus accessibles pour eux sont souvent les moins bien payés avec des horaires atypiques, précise le chercheur en socio-économie du travail. Lorsqu'on est sans expérience en sol québécois, que nos diplômes ne sont pas reconnus et qu'on ne maîtrise pas encore le français, le travail de nuit est un moyen comme un autre d'accéder au marché du travail. Ce ne sont pas juste de mauvais emplois, puisqu'ils jouent aussi un rôle d'intégration économique. Ils sont une porte d'entrée sur le marché du travail. Ça permet d'acquérir de l'expérience, de créer des réseaux, d'apprendre la socialisation au travail avec les Québécois et de se familiariser avec nos ordres professionnels, explique M. Vultur. Dans certains cas, il permet également de toucher des primes qui bonifient leurs revenus. Un machiniste avec peu d'expérience va gagner autour de 22 $ l'heure de jour. Dès qu'il accepte un quart rotatif, il peut gagner 32 $ l'heure, donne comme exemple Anne-Renée Meloche. La qualité de l'emploi a un effet sur la force d'attraction d'un poste, convient Mircea Vultur, qui avertit des conséquences délétères que peut avoir le recours exacerbé aux travailleurs immigrants dans des postes plus pénibles. La main-d'œuvre immigrante joue un rôle clé dans le fonctionnement de secteurs essentiels, mais il faut que l'économie québécoise apprenne à fonctionner avec un peu moins de ce type de main-d'œuvre. Il y a une tension entre notre dépendance forte aux travailleurs étrangers et leur intégration professionnelle, qui parfois ne correspond pas à leurs aspirations ni à leurs qualifications. Il faut penser à ces gens qui viennent ici et qui ont aussi des aspirations personnelles, note-t-il. C'était « Ces travailleurs étrangers qui restent éveillés la nuit », un texte de Benoît Valois-Nadeau, paru le 26 mai 2026 dans Le Devoir.